jewel. It's made out of paper.
Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, je suis hyper content, hyper excité comme une puce, même si ça veut rien dire en français. Ça n'a pas le même sens. On se retrouve ce soir pour un podcast assez spécial d'ailleurs, un podcast inouï même j'ai envie de dire, car on a l'énorme privilège d'avoir Void Factory comme participant. Void Factory qui est le lead sound designer, excuse-moi, du jeu Sea of Thieves. Donc c'est quand même c'est pas rien, c'est quand même quelque chose qui est assez cool. Du coup voilà, on est tous hyper contents de t'avoir sur le podcast, Void. Merci
salut,
beaucoup
d'avoir. Salut, salut.
Et
ouais,
puis
ouais, c'est vrai que c'est pas courant de temps qu'on n'ait pas un milliard de Français chez Rare, du coup.
Voilà,
pouvoir un peu s'adresser en français, c'est ça change.
C'est l'occasion d'avoir un développeur du jeu français qui participe.
Puis ça nous arrange grandement, hein, soyons tous honnêtes.
Ah oui, tu sois français, oui, clairement.
Ça nous arrange beaucoup. donc voilà. Bref, ce soir, nous sommes accompagnés, comme je l'ai dit, de Void Factory, le lead sound designer de Sea of Thieves. Nous sommes accompagnés de Gamma qui est l'illustratrice, du site Sea of Thieves France. Moi-même, qui suis présentateur, je suis traducteur du site, et finalement le gérant du site, qui est assez créateur.
Salut.
Donc, et la moto qui passe, ça fait plaisir.
Sympa.
Et un invité surprise, la moto dans le fond ainsi que les travaux. Bienvenue.
Ouais.
Yes. Alors, pour avancer un petit peu, nous sommes le 1er... On est quel mois? On est encore en juillet?
Non, on est en août, meuf.
Nous sommes le 1er août 2021, il est 21h03, et le podcast de ce soir portera sur, comme vous voyez, le sujet du débat, le sound design dans Sea of Thieves. Je tiens à préciser que aucune question qui porte sur le futur contenu du jeu ou de l'information insider ou alors juste les futures mises à jour ne seront prises en compte. On les ignorera et si elles continuent à être pertinentes, on bannera la personne du chat. Voilà, parce que...
Putain, vous êtes violent chez vous.
Oui, mais à force, ça va.
Il rigole pas.
Non, les pieds, pas... On retrouve leur adresse. Non, on s'arrête pas là. On est des fous.
Non.
Ça dépend de la question, mais de manière générale, si c'est ce sera quoi la prochaine mise à jour, je peux pas.
Évidemment.
Voilà. C'est pas à toi d'y répondre. Et puis, tu peux pas de toute façon. Donc, par contre, les questions qui portent sur le sound design ou un sujet autour qui a à voir avec le son dans n'importe quel jeu, même si tu es capable d'y répondre, Void, y a pas de souci, ça on peut prendre. Donc voilà, ça c'est information importante. Je tiens à vous rappeler également que le podcast sera disponible sur à peu près toutes les plateformes internet. On dirait un vieux qui parle à une plateforme internet. Toutes les plateformes, c'était quoi? C'était Spotify, Deezer, quoi d'autre?
YouTube et Twitch, tout simplement.
YouTube et Twitch. Spotify, Deezer, YouTube et Twitch, alors, ça?
Ouais, c'est ça.
Ok. Vous aurez les liens sur le site, et un peu partout.
Dans la nuit.
Un peu plus. Ou dans la nuit. Voilà. Ok. Pour te présenter, Void, comme je l'ai dit, tu es le lead sound designer de Sea of Thieves France.
Sea of Thieves, tout court.
C'est une longue journée, hein.
Ah, le vieux lapsus.
Il est sorti tout seul. Du coup, le lead sound designer de Sea of Thieves, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, je suis chez Rare depuis 2015. Depuis 2015, et donc je suis venu en tant que contrat, c'est-à-dire un peu sorte d'intérim, tu vois, quelques mois, pour bosser sur Rare Replay, qui était une compilation des jeux Rare, tu sais, avec 30 jeux, $30, etc., pour les 30 ans de Rare. Et à partir de là, j'ai commencé à basculer sur le prototype de Sea of Thieves, dont je pense que vous avez pu voir des captures, c'était un truc avec des tic-tacs
ouais.
sur Unity.
Oui.
magnifique.
Très sympa.
Et après, bah, le développement, on est passé sur Unreal et on a développé le jeu jusqu'à la sortie en 2018 et ensuite l'anniversary update, etc., jusqu'à aujourd'hui, quoi. Toutes les mises à jour.
Ouais.
Voilà, donc ça fait 5 ans de 5-6 ans de Sea of Thieves.
D'accord, ok. Qui est quand même.
Ouais, à l'échelle du. J'ai 32 ans, donc à l'échelle de ma vie, ça fait beaucoup de pirates.
C'est pas mal du tout, même.
C'est clair.
Non, mais c'est super. Et du coup, la question qui moi m'intéresse le plus, comment on travaille chez Rare? Est-ce que l'ambiance est bien quand même ou pas?
Alors on va omettre toute la partie, parce qu'en fait là ça fait un an et demi qu'on travaille à la maison,
ouais.
Avec
oui.
le fameux Covid qu'on ne présente plus. Alors je veux parler de la période avant, c'est-à-dire on allait au studio et on faisait des trucs. Vraiment bien. Bonne ambiance, globalement. Non, franchement, je vois pas trop. Juste bonne ambiance, c'est agréable à travailler. Les gens sont gentils, intelligents, cultivés. C'est une ambiance assez internationale, comme pas mal de studios de jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est très avec des gens qui viennent un peu à gauche à droite. Le studio se situe dans les Midlands, au milieu de nulle part. C'est au milieu. Enfin, il y a vraiment un champ avec des alpacas et des vaches à côté. Parce que c'est là qu'il y a 35 ans, les frères Stampers ont créé le studio et puis c'est resté là pour des raisons historiques. Et non, bonne ambiance. Maintenant, on a deux équipes. Il y a une équipe qui travaille plutôt sur Everwild et puis il y a une équipe qui travaille sur Sea of Thieves.
Mm-hmm.
Et ouais, voilà, en son musique, on est 7 maintenant, donc on a grossi, parce que quand j'ai rejoint le studio, on était 3. Maintenant, on est 7 avec 2 musiciens et 5 sound designers. On a un directeur audio, John Vincent, 3 sound designers et moi. Voilà.
Bon, ça fait une belle équipe quand même.
C'est une belle équipe soudée avec vraiment des backgrounds variés, mais c'est un peu le cas de toutes les équipes, je pense. Ouais, il y a des Italiens, on a des Allemands, on a un peu de tout, quoi.
Il y a des personnes
de
tous les coins, ouais. Ok, d'accord.
Une diversité, ouais. Pareil, ouais, forcément, t'as une diversité culturelle, une diversité de façon de penser, de tout, qui font que ça ne peut que renforcer la chose. Je pense que c'est aussi possiblement ce que Rare cherchait à faire. Enfin, je pense.
Ouais, alors il y a carrément ça, et puis il y a aussi vu qu'on essaye de faire quelque chose d'un peu spécial, c'est un peu des métiers de niche, et parfois tu cherches tel ou tel profil, il faut être ouvert d'esprit,
ouais,
et chercher un peu plus loin, quoi.
D'accord, ok. Je veux relancer une question. Tu disais tout à l'heure que dans ton équipe il y avait 3 sound designers et toi. Quelle est la différence entre un sound designer et un lead sound designer?
En vrai, sur le papier, la différence elle est pas. Comment expliquer ça? Alors je pense, à mon avis, ça doit dépendre un peu d'un studio à l'autre. Chez nous, en fait, tous les sound designers ils font tout. On n'a pas de spécialisation. Tiens, toi tu vas faire tous les. Ce qu'on appelle le folie, c'est-à-dire, tu sais, tous les sons de vêtements, de personnages, etc. Tiens, toi, tu vas faire toute la VO, etc. Non, chez nous, en fait, on prend, c'est atroce, parce que j'ai pas du tout l'habitude de m'exprimer en français. Du coup, j'ai des mots anglais qui me viennent.
Vas-y, y a pas de souci. Hein.
En gros, on prend une feature, c'est-à-dire un.
Parler anglais directement, ça.
Un truc, à faire. Non, par exemple, admettons, voilà, le son du tromblon, etc. Donc, en fait, ça, c'est une feature. Donc, le tromblon peut tirer, machin, etc. Donc, la feature, tu as quelqu'un des VFX qui va faire les. Je vulgarise. Un VFX qui va faire les effets, l'animation qui va faire quand tu sors le tromblon, la 3D qui va faire le tromblon lui-même, etc. Donc, forcément, il y a des tas de personnes. Et en fait, en son, t'as une personne qui va prendre le truc de base, qui va faire tout le son, l'intégration, etc., de l'enregistrement, l'édition, l'intégration, jusqu'à le shipping, c'est-à-dire au produit final où on sort la feature, quoi, on la rajoute dans le jeu.
Okay.
Donc, en fait, quand on travaille sur des nouveaux trucs, généralement, les sound designers, ils prennent tout le truc de A à Z.
D'accord.
Vachement D'accord. bien, c'est très homogène comme façon de bosser, je trouve. Dans le sens
Ouais,
où...
et ça rend aussi le truc un peu moins chiant, parce qu'en fait, si tu
Ouais.
fais juste de l'édition de, par exemple, de VoiceOver, bah, ou de juste de l'édition de son, où tu vas couper des sons toute la journée, ça devient assez rébarbatif, alors que d'avoir ce côté un peu créatif, où tu vas enregistrer des sons, tu vas prendre tes micros, tu vas faire des trucs, et après tu les mets dans un éditeur, c'est encore un métier qui ressemble qui est un peu différent, et puis après tu as l'intégration qui est vraiment beaucoup plus technique, avec le middleware et puis le code. Donc au fur et à mesure que tu avances dans ton travail, en fait, ça devient de moins en moins créatif, pour ainsi dire,
Ouais.
et de plus en plus technique.
Alors que c'est quand même ce côté-là créatif qui, enfin, moi je sais qu'en tant que graphiste, c'est là-dessus qu'on s'éclate le plus, donc j'imagine que c'est pareil. Forcément, si tu fais, comme tu dis, quelque chose de bah, quasiment du travail d'usine en fait, que du cut ou que tout le temps la même chose, ouais, non, je comprends. C'est vachement bien comme façon de bosser.
Ouais, mais c'est venu de manière assez naturelle, et puis au moins, tu sais, vu que t'as vraiment la vision et la compréhension du truc de A à Z, bah, enfin, pour nous, en tout cas, ça fonctionne. Peut-être que dans des plus gros studios, parce que nous, quand je suis arrivé, je crois qu'on était 120 chez Rare, maintenant on doit être dans les 180, si je dis pas de bêtises,
Ah oui.
prendre avec des pincettes. Donc, ouais, à mon avis, peut-être si t'es dans un plus gros studio, ça peut. Enfin, tu vois, si tu prends ça, par exemple, tu transposes ça à une usine de voiture, ça peut pas fonctionner. Tu peux pas dire à un ouvrier,
Clairement
tiens,
pas.
tu prends cette voiture-là et tu la fais de.
Ah, c'est impossible.
T'as un module qui fait toutes les portes, un module. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne dans une usine.
Ah bon, ah bah je suis déçu quand même. Je pensais. Bon, bon.
Ben moi
Oh
je sais
non,
d'ailleurs,
c'est
alors c'est très
vraiment.
simple.
C'est vraiment de l'artisanat, pour
Bah
un
ouais.
l'artisanat logiciel.
Ah c'est vachement cool.
Ouais,
Ouais
non,
c'est
bah
bien parce
je.
qu'en plus t'as un œil omniscient sur la chose, je trouve. T'as tout le temps du recul en fait. Même si t'as tout le temps la, excusez-moi le terme, mais la tronche dedans toute la journée, bah t'as quand même cet œil omniscient qui fait que bah t'as le contrôle sur la chose quand même, je trouve.
Ouais, alors sachant que l'effet qui se coule, mais c'est le cas à mon avis dans tout ce qui est software. Tu as, admettons que si quelqu'un a fait une feature de A à Z et que cette personne s'en va, tu n'as plus forcément la connaissance de comment ça a été fait. Donc en fait, notre travail, il est contrôlé par nos pairs, par nos collègues, au fur et à mesure qu'on avance dans le truc. On dit ah ouais, tiens, ouais, ça sonne pas mal, etc., etc.
Ok. Ouais, bien.
On y va, ok. Oui, bah, moi j'étais curieux par rapport à vu que tu travailles dedans, comment en fait quel chemin et enfin par quel chemin t'es passé pour te lancer dans le sound design en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler là-dedans?
C'est le moment où je fais du pathos et je vais dire oui, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, etc. Enfin, qui n'aimait pas. Ouais, je vais la faire courte. En gros, grosso modo, j'ai fait un bac ES d'économie, donc rien à voir. Et j'ai basculé sur un BTS audiovisuel, donc 2 ans après le bac. Et après ça, j'ai fait une licence, comment ça s'appelait, licence de cinéma. Donc c'était au Satis, à côté de Marseille, à Aubagne, dans le sud de la France.
Oui.
Donc tu fais tout ce que je devais faire, mais j'étais recalé parce que ma note n'était pas assez bien. Super.
Et après ça, j'ai fait le master 1 et le master 2, et puis j'ai commencé à bouger. Donc j'ai bossé j'étais d'abord dans un studio de musique en République tchèque à Prague. Parce que moi, à la base, je voulais faire un peu de musique, parce que j'avais plutôt à l'époque un profil de musicien. Et après, à partir de mon master 1, je suis allé en Pologne et j'ai commencé à travailler sur des jeux vidéo, etc. Et ça m'a beaucoup plu parce que j'étais féru de jeux vidéo depuis que j'étais tout petit. Et après, je me suis dit, ah bah, j'adore le son et j'adore le jeu vidéo. Voilà quoi, why not? Et donc après, j'ai bougé dans deux studios. Je suis allé à Brighton, à Portsmouth, etc. J'ai jamais travaillé en France, donc voilà.
D'accord,
C'est un
ok.
peu le. Maintenant, je sais que la situation est un peu différente, il y a plus de studios et ça s'ouvre. La conscience collective en France autour du travail dans le jeu vidéo, elle est beaucoup plus ouverte, je pense, qu'il y a 10 ans. Donc,
Ouais, tout à fait. Ça m'a beaucoup surpris que tu dises que tu sois allé en Pologne, vu que je suis né là-bas. T'es allé où? en Pologne?
Le studio était à Varsovie, donc c'est le studio qui a fait This War of Mine et plus récemment Frostpunk.
D'accord.
Oui.
Donc j'avais travaillé sur This War of Mine et Anomaly 2. Donc ouais, c'est à Varsovie. C'était à côté, c'était pas en face, mais juste à l'arrêt de tram d'après de CDPR.
Ouais.
CD Projekt à l'époque, enfin dans leur studio d'avant, je crois qu'ils ont déménagé maintenant, je sais plus.
D'accord. Ok.
Je viens de voir une question dans le chat qui est totalement en rapport avec ça et qui moi m'intéresse énormément. Faut-il avoir un diplôme pour entrer dans un studio de jeux vidéo en tant que sound designer? Parce que toi, du coup, tu as un parcours qui fait que tu l'as ce diplôme. Et moi, je sais qu'en tant que graphiste, ça a été compliqué parce que justement, j'avais les capacités, mais je n'avais pas les diplômes. Du coup, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un diplôme?
Alors, non. Et alors, attends, moi mon diplôme, c'est pas un diplôme de jeu vidéo.
Non,
en fait,
c'est un
truc de science du film. C'est un diplôme, enfin, c'est du cinéma. Tu vois, du coup, j'ai rien fait. J'ai fait du sound design et de la perche et ce genre de truc. Mais travailler dans le cinéma, personnellement, ça m'intéresse. J'ai travaillé sur des films et des animés, ce genre de truc. Mais travailler dans le cinéma, ça m'intéresse pas trop parce que j'aime bien être devant le PC, etc. Ouais. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être sound designer? Je pense pas. En tout cas, nous, peut-être ça dépend les pays, ça dépend les studios, ce genre de trucs. En tout cas, moi, quand je regarde des CV, le premier truc que je fais, c'est j'ouvre le CV et je clique sur le lien qui mène vers le portfolio. Comme ça, je peux voir, peux tout de suite écouter. Tiens, comment ton oreille, comment tu vois les choses, etc. Parce qu'au moins, tu sais tout de suite de quoi on parle, etc. Quoi. S'il n'y a pas de lien, tu peux venir de la meilleure école, je sais pas ce que tu fais, si je peux pas écouter ton travail. Donc, au Royaume-Uni, je pense pas que ça influe tant que ça. Vaut mieux, à mon avis, avoir un portfolio solide avec des choses à montrer plutôt que d'avoir un triple doctorat et rien à voir à montrer. Quoi.
Ouais, c'est le talent avant
démontrer
le diplôme,
des compétences.
Et les compétences, voilà, c'est ça. C'est...
Bah, il faut que ce soit clairement, il faut que ce soit tout de suite visible, quoi. Tu cliques sur, bim, t'as une vidéo, t'as un portfolio, t'as quelque chose que tu peux écouter, tout de suite tu peux juger, et puis après tu peux t'améliorer, tu peux utiliser ça comme base pour t'améliorer, etc.
Ouais, tout de suite, t'as sous les yeux. Oui, ça paraît logique, mais.
Pas tout le monde le sait, tu vois, on parle de sound designer, les mecs qui veulent le faire, enfin les personnes qui veulent rentrer dedans, dans ce métier, ils pensent, il y a des personnes qui pensent obligatoirement qu'il faut un diplôme de sound design. Donc au moins c'est bien que tu puisses mettre en lumière cet aspect-là, quoi, que c'est pas forcément obligatoire.
Puis c'est vrai que c'est sound designer, c'est quand même un métier qui n'est pas souvent mis en avant, je trouve, sur internet, enfin on n'en parle pas beaucoup quand même, donc c'est vrai que c'est intéressant d'en parler avec toi.
Que tu prennes les jeux vidéo dans leur entièreté ou les applications mobiles ou quoi, c'est vrai qu'on va, même un truc tout con, mais tu vois, un panneau de signalisation, il y a quelqu'un qui a pensé, il y a quelqu'un qui a réfléchi, mais jamais tu vas te poser la question de mais quel est ce métier qui invente ceci pour que l'être humain reconnaisse, tu vois, et c'est un peu pareil dans les jeux vidéo, je pense, c'est que quand tu joues à un jeu, tu vas pas réfléchir à qui a fait ces designs comme ça, qui a pensé à faire ce son comme ça, et comment est-ce qu'on peut avoir ce métier, c'est pas mis en avant du tout. Pas assez, du coup, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est passionnant, quoi. Enfin, je veux dire, tu crées un univers quand même. C'est quelque chose de fou quand tu y penses.
Ouais, il y a des gens, des fois, qui me disent ah, moi, je croyais que tu faisais le jeu et puis le son, il est là.
Bah... ah oui, le son, il est tombé comme ça. On devant la maison.
Mais oui, non, mais parce que tu sais, ils voient ça comme un. En fait, des fois, c'est tellement naturel, tu vois, ils voient ça comme un produit de quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, une voiture, bah, t'allumes le moteur, personne n'a fait le son du moteur d'une vraie voiture. On est d'accord, c'est tu allumes le moteur et il y a un son parce que.
Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu ça comme
ça. Et en fait, ils voient ça comme, ah bah, tu fais un jeu et je sais pas, quand tu te déplaces, il y a des bruits de pas vu que t'as des pas, etc. Et en fait, ils pensent c'est juste dans le. C'est fou, hein.
C'est comme ça.
Ouais, ils pensent c'est juste comme ça. Ça fait juste. En fait, c'est tellement inné, des fois, ils pensent ah bah ouais, bah oui, tu vas sous l'eau, évidemment, le son il est différent parce que t'es sous l'eau. Mais ils se pensent pas que. Tu vois, des fois, c'est tellement naturel que.
Bah, c'est vrai que les gens ont plutôt tendance à s'arrêter sur l'aspect visuel que l'aspect sonore, en fait, c'est dans un jeu, tu vois. Et pourtant, on va prendre comme exemple Sea of Thieves, hein, le sound design est tellement important dans ce jeu que. C'est dommage de passer à côté, en fait.
Même pas que dans Sea of Thieves, je pense que c'est important dans tous les jeux, tout simplement. Ouais. C'est
C'est bah, comme disait Void, c'est quelque chose qui est tellement inné en fait que tu vas pas y penser parce qu'un graphisme, forcément, qu'il est différent de la réalité. Heureusement, peut-être, hein, parce que certains jeux, ce serait bizarre. Mais forcément, c'est différent. Alors que le son, justement, pour que l'immersion soit totale, c'est quelque chose de très proche de la réalité et du réel. Donc, forcément, c'est tellement inné et tellement bah, inné, ouais, une fois de plus, pour tes oreilles que je pense que tu le calcules même pas. C'est d'autant plus que dans SOT, c'est très très bien fait. Donc l'immersion, elle est vraiment là et tu n'y réfléchis pas. À l'inverse, dans un mauvais jeu, j'ai envie de dire, bah, c'est là que tu le remarques. Quand je regarde JDG, tu vois, bah, là, tu remarques que le son a été rajouté après. Tu t'en rends compte très très rapidement. Mais quand c'est bien fait, bah, c'est tellement même trop bien fait que ton cerveau calcule pas. Donc tu vas pas détailler ça du reste. Tellement c'est là que c'est évident que tu vas pas détailler.
Il y avait une question sur l'overlay de Discord. Je sais pas si ça vaut. Si on peut le mettre
je suis
ou pas,
en train de voir, mais je t'avoue, je sais pas faire. Donc, je sais
ah ouais,
pas.
J'ai bossé dessus, fait l'effort.
Non, non, mais pour voir qui c'est qui parle, ou... mais là, je sais pas.
Ah
La question du début, qui a fait le raw et le vomi alors, le vomi, j'ai fait une partie du vomi quand tu vomis dans le seau. J'avais fait ce son-là, je crois que c'était de la soupe ou un truc comme ça. Et le raw, je sais pas du tout, ça remonte. C'est un des premiers trucs qu'on pouvait faire, c'était de roter.
Ouais, c'est vrai que le raw était quand même énorme. Hein. C'est...
Je crois que c'est mon boss qui avait fait ça. Mais c'est fait en interne. Ouais. C'est des raw, c'est des raw de chez super.
C'est la meilleure réponse que je n'ai jamais entendue de ma vie.
Vous avez c'est quelqu'un la meilleure réponse. Vous l'avez enregistré, vous l'avez collé sur le jeu, c'est comme ça que ça marche?
Ouais, c'est genre, oui, alors parfois on travaille avec des banques pour certains trucs parce que, genre, tu vois, tous les animaux là,
les poules, ça va, c'est déjà créé ça.
Les poules, enfin, tu sais, tous les animaux exotiques, les perroquets, etc. On a enregistré un perroquet pour les pets quand on les a sortis. Mais il y a un mélange de trucs, il y a un mélange de banques et de sons enregistrés nous-mêmes. Toujours pour des histoires de practicité, de gain de temps, etc., etc.
Bah, vu qu'on parle d'héros, c'est pour quand l'épée?
C'est pour quand quoi?
L'épée.
Non, je crois qu'il y aura des épées.
C'est dommage.
C'est dommage.
Ça peut être une feature très intéressante de Sea of Thieves, ça.
À quoi résumez-vous la vie de pirate? Oh bah vous savez, un bon héros. Hein. Allez, ah, voilà, ça c'est fait.
C'est vachement intéressant.
Non mais ouais, c'est parce que franchement, moi je le voyais pas du tout comme ça. Je sais pas comment je le voyais, mais je m'imagine pas... Le travail de sound design, ça marchait comme ça, quoi.
Bah ouais, il y a des fois il y a des trucs. C'est quelqu'un qui dit ouais, quelqu'un s'est enregistré en train de roter. Parfois il y a des trucs assez dégueulasses. Par exemple, j'ai fait tous les sons là. Tu sais quand tu manges
des fruits.
Mais tu sais tu peux aussi manger des vers, etc. Ouais. Et en fait tu te rends compte que quand tu enregistres des fruits, ça rend pas du tout comme tu veux que ça rende. Genre les vers, je crois que c'était des raisins. Parce que je voulais ce côté un peu juteux.
Un peu juteux.
La banane, c'est une vraie banane. Et il me semble que genre tout le reste, c'est genre la mangue, c'est un avocat. Parce qu'en fait, quand tu manges dans une mangue, c'est beaucoup trop juteux, oui. c'est un peu dégueulasse, etc. Si tu veux ce côté un peu croquant, comme si la mangue est genre pas entièrement mûre, bah, dans un avocat, ça a fonctionné avec la peau, tu sais. Et en fait, du coup, il y a plein de trucs comme ça où, bah ouais, tu manges pas des vers, tu manges des raisins, ouais. Et tu manges pas une mangue, tu manges un avocat. Et du coup, bah, t'as des sessions, c'est un petit peu dégueulasse.
Mais n'empêche, c'est d'être. Enfin, j'arrive pas à imaginer, c'est d'être vachement compliqué, comme de savoir quoi faire pour avoir un bruit, enfin, le bruit que tu veux, en fait, le son.
Ouais.
C'est assez compliqué.
Franchement,
ça vient avec un peu d'expérience, tu sais à peu près où chercher pour ce genre de trucs, et puis tu y arrives, tu trouves. Ça dépend comment. Moi, ce que je voulais, c'est pour les sons où tu manges, bah, soit pas dégueulasse, parce que tu sais, les sons de mastication de bouche, là, c'est l'horreur. Quoi. J'essayais un petit peu de tirer ce truc-là, et puis quand même, quand tu manges tel ou tel fruit, tu reconnais. Donc, j'ai essayé de prendre des trucs assez faciles à reconnaître. Quoi.
Ouais,
d'accord. C'est. Excuse-moi,
vas-y.
Non, je t'en prie.
Mesdames d'abord. Mais dans ta vie en général, du coup, parce que. Évidemment que tu bosses dans le son, donc que tu dois justement, comme tu disais tout à l'heure, chercher un peu tout le temps à savoir quel son est reconnaissable, qui fait quoi, comment. Mais dans ta vie de tous les jours, du coup, je pense que tu écoutes le monde différemment.
C'est ouais, c'est la déformation un peu professionnelle. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans d'autres métiers qui ont ce truc-là. Des fois, quand tu n'arrives pas à déconnecter et que tu écoutes des trucs, t'es quand même vachement à l'écoute de ce qui se passe, ou des sons, ou de la façon dont il y a des trucs que j'ai, enfin il y a des fois ça rentre dans mes, tu sais, par exemple si j'achète un nouveau meuble, bah je suis ultra sensible au son des tiroirs ou ce genre de trucs, parce que j'aime bien des beaux sons de tiroirs, par exemple. Il faut que ce soit satisfaisant, tu sais, quand tu les fermes, ce genre de... enfin il y a une qualité, c'est quand tu fais beaucoup plus attention au son, à la musique des objets, bah tu, ça rentre dans tes critères de choix quand tu fais des, quand t'achètes des choses, par exemple, tu vois.
Oui.
Moi je ne retiendrai qu'une phrase: la musique des objets, c'est tout. Elle est magnifique, cette phrase. C'est tout. Elle est trop belle.
Je voulais revenir sur ce que tu as dit, Aurélien, tout à l'heure. Tu disais que c'était assez compliqué. Enfin, ça paraissait compliqué de trouver quel objet ou quel alignement utiliser pour reproduire un son. Et ça m'a fait penser à. J'ai vu une vidéo explicative du jeu Destiny. Et pour la dernière mise à jour qu'ils ont rajoutée avec le nouveau pouvoir. Il y a une femme qui travaillait dans le studio qui justement a utilisé une pompe à lait de sein pour justement créer cet effet de glace et de freezing, comme on dit. Donc ouais, non, franchement, il y a de tout. Et je pense que les joueurs ne s'en rendent pas compte des choses qui sont utilisées pour créer les sons.
Il y a des trucs qui sont plus ou moins évidents. Là, je voyais quelqu'un qui mentionne la piscine pour faire tous les sons de nage, etc. On a pris une grosse piscine et on l'a mis. Il y a un énorme. On a plein de terrain autour du studio. On a mis une piscine dehors et on a enregistré plein de. Tu sais, on a balancé des palettes, des boules de bowling. On a fait tous nos bruits de nage, etc. De saut dedans pour que ce soit vraiment tout. Tout consistant, parce que si tu vas à une plage, etc., bah, tu vas avoir un milliard de sons de bateaux, d'avions et de vagues et de que tu veux pas. Alors que si tu peux juste travailler sur une piscine, etc., et foutre le bordel dedans, tu vas avoir des sons beaucoup plus intéressants, et puis ça va être tout cohérent, tu sais, quand tu prends des objets, etc., que tu les poses dedans.
D'ailleurs, t'avais posté des photos, je me rappelle, de ce moment.
Il y a une vidéo qui traîne quelque part, qui date. Il y a une vidéo, je crois que ça s'appelle Sound of the Land and the Sea. En fait, on voit en vidéo comment on enregistre dans la piscine. Donc ça, c'est assez évident que tu dis, bon, bah, pour des bruits d'eau, on va tout faire dans une piscine et voilà quoi. Mais effectivement, quand tu dois faire un son d'un, je sais pas, d'un bateau fantôme, bah t'es là en mode, ok, comment ça sonne un fantôme, blablabla.
Mais alors du coup, je me pose la question, les squelettes, est-ce que c'est un bruit humain ou c'est au final le mélange
un
d'objets parce que franchement, le bruit des squelettes est assez incroyable quand même.
Non, le bruit des squelettes, c'est un bruit humain et c'est... on avait une personne en contrat qui s'appelait Lorenzo, Lorenzo qui était un sound designer chez nous, et il a fait tous les sons de vocalisation des squelettes. Tu parles des sons de vocalisation des squelettes?
La voix du squelette, tu vois.
Ouais, et il y a des voix, il y a un squelette, j'ai fait une voix de squelette, c'est assez niche. C'est un squelette qui est dans la fable de l'âme en partance. Je ne sais pas si ceux qui n'ont pas fait les fables, mais il y a un squelette, il y a un capitaine squelette, et j'ai fait cette voix-là parce qu'à ce moment-là, on avait besoin d'une voix et Lorenzo était parti ou il était en vacances, je ne sais plus, et du coup, j'avais fait cette voix.
D'accord.
D'ailleurs, on peut te retrouver, je crois, tu as doublé certains PNJ, je crois, du jeu.
J'ai doublé le coffre pleureur.
Ah! Réponds à ma question que je me pose depuis des années.
Moi, je vais vous laisser là. Bonne soirée. Je me casse.
Donc
c'est
toi.
Moi.
C'est moi, le coffre pleureur. Il y a qui? Il y a Tony sur. Je sais plus le nom des avant-postes, parce qu'en fait, les noms des cartes en développement, c'est genre Devil's Roar, Outpost 01, 02. Donc, j'ai plus le nom à chaque fois, je les perds, mais il y a un avant-poste dans les Wilds. Il y a un avant-poste, il y a un gars qui s'appelle Tony.
Ouais.
J'ai fait cette voix-là et j'ai fait Eduardo, qui est un PNJ dans l'Emporium de. Plunder, je crois. Plunder Outpost.
Ça doit être ça, je crois, ouais.
Mais ouais, le coffre pleureur, à la base, on savait pas trop comment le faire. Et je crois Johnny nous dit, ce serait bien d'avoir des pleurs de bébé, etc. Je dis, non, ça va être hyper hyper creepy.
Légalement, on n'a pas le droit, les gars. On va avoir des problèmes.
C'est chelou.
C'est Silent Hill, tu sais.
C'est ça.
Tu rajoutes de la reverb dessus. Je me suis dit, bon, on va essayer de le faire un peu plus drôle. Et ouais, je sais pas, je me suis imaginé. Hein. Je l'ai quasiment enregistré en blague, et en fait, c'est vrai.
Mais en fait, tu me rends heureux parce que chez moi, depuis que je joue à Sea of Thieves, c'était un mème. Je me disais, c'est Void, c'est sûr. Il s'est mis à chialer devant son micro, et putain, tu me vends du rêve là. C'est, voilà, là. C'est beau.
Il y a tellement de choses qui sont reveal pendant ce podcast, c'est incroyable.
Ouais, c'est un peu un. Le coffre pleureur, c'est un peu comme quelqu'un qui se moque de quelqu'un qui pleure, tu sais, qui fait des pleurs exagérés.
Ah oui,
qui exagère, c'est bien, oui.
Voilà.
Ah là là. Bon, ben voilà, on a dit boss, c'est bon.
Donc, j'ai une autre petite question par rapport au son et aux musiques dans Sea of Thieves. Est-ce que tu as déjà calé des easter eggs dans tes sons ou pas? Est-ce qu'il y a des easter eggs?
Oui. Il y a un paquet de sons. J'avais fait une liste sur le Discord. Il faut que je la retrouve.
Le Discord sur TFR, ouais, c'est ça.
Ouais, j'avais fait une liste de genre une trentaine. Je crois qu'il y avait une trentaine de. Il y avait un paquet de détails, il y avait plein de trucs. Tu sais, le bruit du vent dans les oreilles quand t'as la direction du vent ou. Le bruit de l'inventaire quand tu l'ouvres et que t'es sous l'eau ou sur le ferry des damnés, il y a plein de petits trucs comme ça.
D'accord.
Faudrait le retrouver. Attends, je vais essayer de le retrouver en parallèle.
Si tu le retrouves, sinon t'embête pas. Et si tu le retrouves, passe-le nous et puis on
le mettra. Il y a peut-être
des gens
du chat qui peut-être le dossier, je sais pas.
Si vous l'avez dans le chat, ouais, passez-le. N'hésitez pas à le faire passer. Donc, je voulais juste revenir un peu en arrière. Tu as dit que à la base, tu avais plus un profil de musicien.
Ouais.
Tu as une chaîne YouTube, il me semble aussi, où tu as fait des.
Ouais,
des...
ouais. C'est bah moi c'est très facile. Hein, c'est Void Factory partout, c'est-à-dire sur Twitter,
tout
sur Instagram.
En lien de toute façon, donc, pas de souci. Et je t'avoue que j'ai pas écouté. Enfin, j'ai écouté une chanson que Aurélien m'a passée. Mais du coup, est-ce que en faisant de la musique, est-ce que tu as eu des des influences, des grandes influences qui t'ont aidé aussi pour le sound design ou
des influences de sound design, des influences de
influences artistiques pour la musique ou pour le sound design, les deux en général.
Ouais, enfin moi j'aime bien tout ce qui est son assez sec, tu sais j'étais pas trop fan des tout ce qui est ultra réverbéré ou trop bruyant. J'aime bien quand tu sens vraiment l'aspérité des objets, je sais pas vraiment comment le dire. Mais tu sais par exemple Sea of Thieves, c'est ça 300%, c'est genre quand tu tout une sorte de poids audio, je sais pas, tu sais, tu drops un tu poses un coffre, tu t'entends les grincements du truc, tout est malmené, un peu, tu sais, ça colle un peu avec le. Il y a plein de détails audio. C'est beaucoup plus détaillé en termes d'audio que visuellement, parce que visuellement c'est assez assez peu bruyant. Donc c'est beaucoup plus détaillé en audio qu'en visuel, mais ça colle à l'aspect malmené d'un peu tous les objets, etc. Quoi.
Okay. Il y a beaucoup de personnes qui demandent. Enfin, j'ai vu une personne qui demande en chat comment vous avez fait les. On en parle vite fait. Comment vous avez fait les sons
des voix dans le vaisseau des damnés, c'est ça?
Voilà, des voix sur le vaisseau des damnés. Comment ça a été créé?
C'est Gérard, il avait une bonne grippe et puis voilà.
C'est, ouais, c'est une voix un peu fantomatique, je crois, c'est ça.
Ouais.
Attends, pardon. En fait, on m'a envoyé la liste des trucs. Est-ce que tu peux répéter la question? Je suis désolé.
Oui, bien sûr. Il y a dans le chat, il y a quelqu'un qui a posé la question suivante. Comment vous avez fait pour créer les sons? Qu'il y a sur le vaisseau des damnés. Les voix un peu fantomatiques, comment elles ont été créées?
Les voix fantomatiques. Il y a des voix fantomatiques. Ah oui, les sortes de cris là qu'il y a.
Oui.
Ouais, ça c'est assez simple en fait. C'est des cris avec des reverbs. À mon avis, ça sort de bombes de son, je crois. C'est un peu.
Il n'y a pas eu de pompe à lait là-dessus, les gars, je pense pas.
Par contre, ouais, je vois, il y avait une question sur le Kraken et le Mégalodon. Alors, j'ai plus le détail exact des sons qu'on a utilisés. C'est beaucoup de sons de banque. Tout ce qui est créature, ce genre de créature, les chameaux, je sais pas si vous avez déjà vu un chameau dans la vie réelle, c'est une usine, c'est une cornemuse, c'est incroyable quoi, ça fait tellement de son, ça rote en permanence, c'est vraiment incroyable quoi. Quand, un chameau hein, pour un sound designer, c'est génial. du coup, t'as des tas de sons quand les tentacules elles se lèvent, il y a des sons de chameaux. Mélangé avec des sons de loutre de mer, j'ai plus les détails, il faudrait que je réouvre la session pour voir comment ça a été.
C'est ça qui est trop bien, c'est ce mélange là, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment intéressant.
On a pris, on a mis ensemble et paf, un Kraken. Voilà. Génial.
Après, voilà. J'ai retrouvé la liste parce que j'ai demandé à quelqu'un du Discord qui conserve ce genre de trucs. Allez. J'ai une liste de 20 détails, donc je peux les lâcher.
Fais-nous rêver.
Je vais pas tous les enchaîner là, mais on peut en faire genre 3-4. Ouais.
Vas-y, fais-toi plaisir.
Alors, petit détail 1, le son se déplace moins vite que la lumière, donc ça c'est comme dans la vie réelle. Mm-hmm. Donc en fait, du coup, quand tu vois les canons tirer, etc., tu vois que le visuel part avant et tu entends le son après, un peu comme les feux d'artifice dans la vraie vie. Il y a un système un peu d'inertie de la pluie, donc c'est-à-dire, tu sais, une fois qu'il a fini de pleuvoir, bah, il reste en fait, on a une valeur en audio qui est en fait l'humidité, et en fait ça, il y a des, tu sais, quand il pleut il y a des grenouilles plutôt que des criquets, ce genre de trucs, donc toute la vie des îles qui est audio et qui n'existe pas visuellement, bah elle change en fonction de l'altitude, de l'humidité, de s'il pleut ou pas, et de la zone dans laquelle tu te trouves, donc il y a plusieurs paramètres. Pareil, quand tu fais exploser un baril au milieu d'une forêt, bah tous les oiseaux qu'il y a autour, bah, ou les criquets, ils se taisent pendant genre 10 secondes, et après ils reviennent, quoi.
Et ça, vous l'avez testé dans une forêt en Angleterre, on est d'accord, hein, c'est ça?
Non. Ouais, pareil, tout ce qui est bruit de la pluie, tu sais, moi j'aime bien le son de la pluie, tu sais, quand la pluie elle tombe sur un toit de voiture, ou quand t'es sous un arbre, la pluie elle tape les feuilles, ça fait une sorte de poc-poc machin. Bah en fait, quand il pleut fort et que tu vas dans un magasin ou dans la cabine du capitaine, ou alors que tu vas à côté d'un arbre, bah t'entends cette signature un peu. Si tu es dans la cabine du capitaine, t'entends que ça tape sur du bois. Et je trouve ça ultra cosy comme son, tu sais, c'est trop agréable, t'as envie de te poser, de faire une sieste. Et quand t'es à côté d'un arbre, bah il y a ce côté un peu enveloppant, presque cotonneux, de bah il pleut sur les feuilles qui est au-dessus de toi, quoi. Et tout ça, c'est rien de visuel, c'est tout du son, c'est-à-dire c'est tout audio. Mais quand t'es dedans et que si tu fais un peu attention et que ça participe à ton immersion, t'es là en mode ouais, cool, quoi. Et c'est ce qui fait que bah des fois c'est juste agréable de s'asseoir pour ceux qui prennent un peu le temps, qui cherchent pas juste à farmer, etc., mais à profiter de l'ambiance globale du jeu. Bah ça aide dans ce sens-là, quoi.
Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui aiment bien prendre un petit moment pour se poser sur une île, ou même juste en naviguant tranquille et profiter du sound design, hein, parce
que ça... Ouais, d'ailleurs c'est une expérience que j'ai beaucoup plus quand je joue en solo sloop, alors que quand je joue en galion, tu sais, c'est vraiment pour faire les quêtes, pour un truc. Mais quand je joue en solo sloop, bah tu sais, je suis là plus en mode comme un touriste, en fait, tu sais, je vais pêcher, je vais vraiment prendre mon temps, etc., quoi.
D'ailleurs, pour toi, est-ce que c'est pas dérangeant de jouer à Sea of Thieves en sachant que t'as travaillé dessus? Tu vois, ça m'intéresse de savoir. Parce que du coup, tu dois quand même, en jouant, entendre tout ton travail d'ailleurs, quoi.
Ouais, ça aide pas pour déconnecter. Ça dépend ce que je fais, ça dépend le cadre dans lequel je fais. Là, quand j'y ai joué récemment sur les fables de A Pirate's Life, tu sais, les fables avec. Et en fait, j'ai tellement travaillé dessus récemment que j'ai pas vraiment pris de plaisir à les refaire, parce que c'est toujours les mêmes musiques en boucle, les mêmes sons. Ça, c'est le côté un peu. Ça te rend fou d'entendre ces sons-là en permanence.
T'es gavé à la fin, en fait, de tellement. Ouais,
t'es gavé de reprendre ça, genre un mois après la sortie, t'es là en mode.
Oh non, pas encore.
C'est vrai.
Non, mais c'est vachement intéressant, franchement.
C'est petites anecdotes croustillantes. De toute façon, dans la généralité, c'est tout le temps les petites anecdotes qui font que c'est ça qui va rendre le truc intéressant. Et là, tu nous livres des petites pépites. C'est outre la tireuse à lait, où je ferai pas de commentaires, mais le reste, j'ai rien.
Il y a vraiment un truc avec cette tireuse à lait. Je sens que.
Moi, ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Si ce matin en me levant, tu m'avais dit ce soir, tu vas parler de tireuse à lait par rapport à Sea of Thieves, franchement, j'aurais rigolé. Mais c'est vrai que le fait, en fait, tu nous donnes une vision complètement différente, même du jeu. Enfin, moi, je le vis un peu comme ça, c'est-à-dire que. Demain, je joue à Sea of Thieves, je vais manger une mangue, je vais penser à l'avocat tout de suite, et je vais réfléchir beaucoup plus à comment chaque son a été fait, et faire beaucoup plus attention à chaque son. Parce que là, tout à l'heure, tu nous parlais de la pluie, c'est un truc tout bête, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi l'immersion, elle est tellement totale, en fait, dans SOT, que c'est quelque chose d'inné. Donc forcément, tu vas pas t'en rendre compte. Et là, le fait que tu nous livres tous ces petits détails, ben, je pense que demain, on va faire beaucoup plus attention en allant sur une île ou quand il va pleuvoir. Parce que justement, on aura pris conscience qu'il y a tous ces détails-là. Et forcément, ça va changer la vision du jeu. Moi, ça me régale.
Ouais, c'est le but d'ailleurs, c'est de mettre un peu plus en avant cet aspect-là qui est vachement cool. Et d'ailleurs, comme l'a souligné Apiscape, et ça c'est quelque chose qui est assez honorable chez les développeurs de Sea of Thieves, donc ceux qui s'occupent des réseaux, on va dire, sociaux, genre sur Twitter, je crois que c'est tous les dimanches où ils diffusent une petite séquence vidéo très courte, je sais pas comment ils appellent ça, où en gros ils sont juste là pour, enfin c'est juste une vidéo pour écouter l'aspect sonore d'une île choisie. Et c'est vachement sympa. Même sur les réseaux sociaux, ils partagent ça. Et
on se concentre un peu plus sur cet aspect-là.
Ça prouve que c'est quand même assez important dans Sea of Thieves.
Ouais.
C'est même un peu central.
Le son. C'est pas une question, mais je vais en faire une question. le son des. Quand tu passes à côté d'un arbre sans feuilles, il craque, c'est une bouteille en plastique. Voilà.
Ah bon, et ben voilà.
Ok.
Voilà. C'est de la magie pour toi.
L'anecdote qui fait plaisir. Je m'attendais pas du tout à ça.
C'est non, en fait, je galérais à trouver un son de d'arbre qui craque. En fait, ça existe pas. C'est l'arbre il craque pas comme ça au milieu de nulle part. Du coup, et en fait, ça passe quoi. Ça passe.
Ça passe. Ouais,
faut pas le penser trop longtemps, mais ça fonctionne.
D'accord. Et Gamal, j'ai envie de te poser une petite question justement, vu que toi tu es l'illustratrice. J'ai du mal avec ce mot ce soir.
Graphiste. Non, mais il n'y a aucun souci.
Vu que tu es la graphiste du site, comment tu fais toi pour dessiner nos bannières? Est-ce que tu as une.
Oh, j'en chie. Hein.
Est-ce que tu joues au jeu avant ou tu as des inspirations aussi ou comment ça marche?
J'ai joué longtemps au jeu avant de ne plus avoir la console, du coup. C'est un grand regret que j'ai parce que SOT, c'est un de mes jeux préférés, il n'y a rien à dire. Donc là, je suis en train de voir justement pour pouvoir y rejouer parce que je sais que visuellement, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Et justement, ça crée presque un paradoxe par rapport aux bannières que je fais, c'est-à-dire que je bosse avec une ancienne vision du jeu pour faire des bannières sur des nouvelles mises à jour. C'est assez paradoxal et compliqué. Mais outre ça, on va dire que quand je jouais à SOT et que je faisais pas encore partie de l'équipe, j'avais une façon de voir le monde de Sea of Thieves. Déjà, les graphismes, je les trouvais formidables, parce que pour moi, ce qui fait une grande qualité de ce jeu, que ce soit visuellement parlant ou au niveau sonore, j'ai inventé un mot, au niveau sonore, c'est que quand c'est SOT, tu le sais. Vraiment, tu le sais, c'est visuellement parlant, tu vois, tu sais que c'est Sea of Thieves. Et voilà, c'est ça, c'est une grande, grande, grande qualité. Et c'est vrai que quand j'ai dû dessiner la première bannière et quand je les dessine maintenant, déjà le coup de crayon est pas même parce que forcément t'as assimilé des choses, tu as vu des choses, tout. Mais on va dire que j'ai pas d'inspiration autre que Sea of Thieves parce que c'est quelque chose qui est tellement propre à lui-même que j'ai pas besoin. Bah évidemment, j'ai toutes mes références artistiques à moi dans mon coup de crayon, mais ça c'est par rapport à moi-même. Mais j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs parce que tout est tellement là en fait, en termes de couleurs, en termes de textures, en termes de personnages, en termes d'univers tout court, parce que l'univers est tellement complet que t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est ça qui est formidable. Et donc du coup, voilà, je bosse comme ça, mais vraiment, je pars de Sea of Thieves et j'essaye. On va dire pas de les copier parce que j'aime pas copier, mais vraiment de leur rendre hommage un maximum parce que le travail qui est fait graphiquement parlant et ce que je découvre au niveau du sonore, ça ne peut pas être. Enfin, je veux dire, il faut faire au mieux parce que c'est quelque chose qui est quand même magnifique, qui est propre à lui-même. Donc j'essaye de faire au mieux, mais vraiment le style graphique se suffit à lui-même, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et ça, c'est formidable.
Donc tu pioches dans le jeu, en fait, t'as tout directement avec le jeu et puis toutes tes influences à côté. Quoi. D'accord, ok.
Ah, complètement.
Du coup, je vais poser une question qui ne t'appartient pas trop, Gamel. Je voulais parler un peu du d'un terme assez d'actualité, le Brexit, Void. Comment les gens est-ce que ça a bien affecté le rythme du travail dans les studios de Rare, le Brexit?
C'est vrai que c'est une question d'actualité, tout comme les questions sur le Covid. Dans les faits, ça a rien changé à ma vie. À ma vie en tant qu'expatrié français au Royaume-Uni, ça a rien changé à ma vie. Je pense qu'il y aura un impact plutôt à long terme pour tout ce qui est peut-être que ça va devenir peut-être que ça va être moins attractif à long terme pour les gens qui souhaiteraient venir travailler. Peut-être Mais en termes de vie tous les jours et de travail au studio, ça a pas changé tant que ça. Après, s'il y a des questions aux alentours, enfin à ce niveau-là, dans le chat, je peux y répondre. Le Royaume-Uni a fait un équivalent de visa, mais c'est une sorte de visa automatique où en fait, si t'es là depuis un certain nombre d'années, bah tu peux rester là de manière permanente.
Ils vont pas te mettre.
Tous les expatriés, ils ont eu zéro problème, puisqu'en fait, au Royaume-Uni, tu as un numéro d'assurance à vie, qui est un numéro d'assurance nationale, c'est-à-dire c'est un peu comme... Il y a tout qui est relié dessus, il y a ton profil médical, ta retraite, tes impôts, etc. Tout va sur ce numéro. Et même si tu pars du pays et que tu reviens 20 ans après, tu reprends le même numéro. Donc tu l'as vraiment à vie, quoi. Et en fait, c'est très simple de juste regarder ce truc-là. C'est très automatisé, ça fonctionne assez bien. Et dire, ah bah ouais, ça fait 6 ans qu'il paye des impôts, qu'il est là, il travaille là, bim, bim, bim. Et ok, bah, visa automatique. Donc ça s'est fait assez rapidement, hein. Moi, j'ai eu ce qu'on appelle la résidence permanente. Je l'ai eu en une ou deux semaines, je crois, c'était réglé.
D'accord.
J'ai pas vraiment bataillé. Après, pour les gens qui viennent d'arriver, qui souhaiteraient travailler au Royaume-Uni, alors je sais pas exactement, justement, ça, je suis pas confronté à ça. Je sais pas exactement les conditions d'entrée. Je pense qu'il faut quand même avoir un travail. À mon avis, ça s'est durci un petit peu.
Okay. Puis s'ajoute le Covid qui n'a rien arrangé, j'imagine.
Ouais. Justement, le Covid a bien affecté le
développement.
Le développement, je suppose, comment...
Ouais, bah en fait, c'est la transition. On travaille au studio, etc. Et puis d'un coup, faut bosser à la maison. Donc, Rare a été plutôt efficace et nous a fait livrer nos machines à la maison, etc. On a un VPN et tout. On peut travailler, ça fonctionne. Mais ouais, je sais pas. Pareil, c'est difficile d'estimer l'impact à long terme de ce genre de mesures, en fait, parce que on travaillait sur un jeu qui était déjà sorti, donc c'est à mon avis un peu plus simple de le mettre à jour, etc. Et je pense qu'il y aura un impact à long terme. J'aimerais bien retourner au studio quand même, même si c'est y a un peu de travail à la maison une fois de temps en temps, même un ou deux jours dans la semaine, mais retourner au studio, je trouve ça... Il y a une énergie, il y a quelque chose de communicatif, c'est parfois plus agréable, quoi.
Voilà, c'est vrai que même Johnny, il avait tweeté à un moment donné où il expliquait quand même que l'ambiance du studio lui manquait finalement. Ils avaient l'air d'avoir une ambiance assez agréable et je me doute c'est assez compliqué. Hein.
Ouais, non, c'est ça, hein, c'est exactement ce qu'il disait, c'est. Après, le studio, il est pas dans un, tu sais, il est, comme je l'ai dit au début du podcast, il est au milieu de, je dis au milieu de nulle part, mais en fait, c'est faux, c'est pas au milieu de nulle part, c'est juste, c'est au milieu des champs, mais c'est en banlieue de la deuxième plus grosse ville du Royaume-Uni. Ouais. Donc, c'est pas au milieu de nulle part non plus, mais c'est à côté des champs et c'est dans, tu sais, moi, j'habite dans un village à côté, quoi. Mm-hmm. Le village où est le studio, il y a peut-être 1000 habitants. Et la ville à côté, là où j'habite, il y a 10 000 habitants. Donc, tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelle du countryside, comme vous dites. C'est la campagne, quoi.
Ouais, vraiment. C'est vrai, ouais.
Et du coup, quand il va, bah, il y a une ambiance, parce que t'as des arbres, t'as des oiseaux, etc. Il n'y a pas vraiment de stress en termes de bruit, de visuel, d'odeur, etc. Il n'y a pas vraiment tout ce stress urbain. Et du coup, oui, il y a une ambiance. Et puis quand t'es avec ces gens qui aussi bossent là, que tu vois régulièrement, bah c'est sûr qu'il y a une ambiance unique que t'as pas quand tu bosses à la maison tout seul, quoi, pour ainsi dire. Même si oui, tu vois tes collègues en webcam, mais c'est pas vraiment pareil.
C'est pas comparable.
C'est pas le contact humain.
Mais au début, en fait, au début, j'étais fan. Je me suis dit, putain, c'est génial, on travaille à la maison, etc. Et là, ça fait un an et demi, je me dis, putain, j'aimerais bien
retourner à quelque chose d'un peu.
Je peux comprendre. Ouais.
J'ai eu le même ressenti parce que j'ai fini mes études et puis au début de l'épidémie ou de la pandémie, je me suis dit, ah bah c'est super, je vais étudier depuis la maison, puis on va plus me casser les couilles, tu vois, parce que j'aime pas trop les études et j'ai dit, c'est génial. Par contre, au bout d'un an, je me suis dit, aller en cours.
Je suis à la maison, ça me casse les couilles.
Voilà, aller en cours, voir les gens, voir mes amis et tout, ça commence à me manquer un peu quand même. Donc, c'est sûr que ouais, à force, ouais. Ça peut être un peu long. Et je voulais savoir, du coup, peut-être tu peux répondre, peut-être pas, je sais pas. Avec le Covid, bon, si vous travaillez depuis la maison, est-ce que ça a posé une difficulté extra pour créer les, parce que je suppose qu'il y a eu des nouveaux sons avec le, l'ajout de des dernières fables du coup, ouais. Disney. Est-ce que ça a posé une grosse difficulté vu que vous étiez tout seul ou vous travaillez quand même en, en équipe
Non, on a fait des sessions d'enregistrement, mais c'était assez assez minimaliste. On a fait beaucoup de réutilisation de sons qu'on avait. Enfin, tu sais, parfois tu t'enregistres des sons mais tu les utilises pas, donc on a eu beaucoup de réutilisation de choses qu'on avait déjà. Ou en utilisant des banques, ou en utilisant, on a toujours essayé de trouver un peu des moyens à détourner, mais c'est pas tant que le Covid, c'est aussi pour, des fois, tout simplement, c'est des histoires de gain de temps et de, si t'as déjà ces sons-là, tu vas pas réenregistrer d'autres sons, donc il y a des gains de temps et de, pour être efficace et pour utiliser ce temps pour des trucs plus utiles, tu vois.
D'accord. Ok. Ouais. Oui, ça peut. Ouais. D'accord.
Parce qu'en fait, t'as deux façades qui est ta façade tout ce qui est création de son. Et ça, c'est assez facile de se l'imaginer. Ok, t'enregistres des objets bizarres, etc. Et tu fais des sons. Mais t'as aussi tout le système qu'il y a derrière. Tu vois, par exemple, t'as pas les mêmes sons d'oiseaux la nuit ou le jour, bah en fait, il y a un système qui dit tiens, bah la nuit il faut faire ça et le jour il faut faire ça. Donc en fait, la façon dont sont implémentés les sons, soit les bruits du craquement qui vont dépendre de l'angle du bateau, ce genre de truc, bah, le système, la façon d'implémenter le son va faire une partie du travail, quoi. Tu peux avoir le meilleur son s'il se déclenche pas comme il faut, quand il faut, etc. Bah, c'est dommage, quoi.
Ouais, ça casse l'immersion.
En dehors de l'immersion, quoi. Voilà. Moi, j'avais une question.
Mais je t'en prie, mais allez-y, libre parole.
Merci bien. Oui, c'est par rapport, bah, du coup, en termes graphiques, c'est quoi le rapport qu'il y a entre l'équipe ou les équipes, je ne sais pas, qui s'occupent de tout ce qui est graphique et justement le son? Est-ce que vous travaillez en parallèle? Est-ce que d'abord on pond l'image, ensuite on pond le son? Comment ça se passe? Parce que les deux doivent être liés et forcément, j'imagine que les deux équipes ou plus, du coup, discutent. Enfin, il y a un lien.
Ouais, alors en fait, ça dépend. Il faudrait que tu sois un peu plus précise dans ta question. Ça dépend quelles équipes. Par exemple, il y a des équipes, il y a certaines équipes, bah, je leur parle jamais, quoi, parce que on n'a pas de lien, on a un lien très très indirect.
Je saurais pas comment te dire, comment être plus précise, mais
vas-y.
Non, dis-moi.
Je pense que grosso modo, ce que tu veux dire, c'est est-ce que on va prendre une équipe universelle dans une horaire de une équipe graphiste et puis l'équipe de son. Est-ce que vous travaillez ensemble, genre par exemple? Didier qui a dessiné l'explosion du canon, est-ce qu'il t'a dit à toi Void comment il aimerait que le son du canon?
Non.
C'était pas dans ce sens-là, mais c'est intéressant aussi.
Ouais, peut-être que la question c'est genre est-ce que la façon dont une personne a travaillé va influencer mon travail ou quelque chose comme ça?
Bah, en fait, visuellement, quand on joue au jeu, forcément, tu as un raccord entre le son et entre ce que tu vois. Et en fait, ouais. Je voulais savoir si d'abord on fait le visuel et ensuite le son vient, ou si, à l'inverse, par exemple, le son vient d'abord, ou si les deux en fait, vont travailler en parallèle pour que, justement, tout colle.
Alors, comment ça se passe ? Généralement, dans un studio de jeux vidéo, tu fais, par exemple... Allez, on va dire t'as le concept artiste qui va faire un perso. Mm-hmm. Il va donner le concept au, je vulgarise hein, encore une fois pour. Il va donner le concept, il va donner son dessin à un caractère artiste. Il va faire le truc en 3D et après il va filer ce truc là à un animateur qui va faire l'animation du perso qui saute, etc. Et après, tu vas avoir le VFX et le sound design qui va se rajouter. Ça c'est la théorie, mais en vrai, en pratique. Ça fonctionne un peu en parallèle parce que tu peux pas tout, enfin surtout quand t'as des délais, tu peux pas attendre et surtout si tu fais ça, bah tu vas te retrouver en bout de chaîne. C'est à dire que si t'as des décalages et que t'as des dates de sortie à respecter, bah tu te retrouves avec zéro temps pour faire quoi que ce soit. Donc tu regardes déjà dès le concept, tu dis ah ouais on va voir je sais pas un tromblon, bim, on va commencer à faire des sons de tromblon, etc. Peu importe le visuel du tromblon, si tu vois ce que je veux dire. Tu peux toujours retoucher un peu pour que ça colle au truc, etc. Mais si tu veux, à partir de ce moment-là, surtout si tu as bossé un petit peu sur le jeu, tu as une idée de, tiens, bah, s'il rajoute tel objet demain, tu sais à peu près à quoi il va ressembler dans Sea of Thieves. Tu vois, il va avoir les angles un peu cassés, il va avoir un aspect comme s'il avait été pêché. Enfin, il va être tout cassé. S'il y a des poignées, tu peux être sûr qu'elles vont grincer, qu'elles vont bouger, etc. Et au final, même si ça se passe pas visuellement, tu peux quand même le faire en son. Il y a plein de trucs qui font des sons que visuellement, t'sais, les forêts, elles sont pleines d'oiseaux en son, alors que visuellement, t'en as pas tant que ça, quoi. Tu vois pas les criquets, tu vois pas tout ça. Donc au final, moi je fais un peu abstraction de. Je décorèle un petit peu du visuel pour. Parce que tu peux pas juste tout attendre et le gain en termes de qualité. En fait, si le gars a décidé de faire le bout de son tromblon carré ou rond, ça va pas vraiment changer ton son. Enfin, dans la théorie, sûrement, tu vois, peut-être, mais dans la pratique, les gens, ils vont tirer avec le tromblon, ça va faire un son de tromblon, et tu vois, il faut être pragmatique, quoi.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a des sons, quand ils sont sortis dans le jeu, quand ils ont été mis, est-ce qu'il y a eu des sons qui... que tu as peut-être eu envie de modifier au cours du développement du jeu ou même là depuis ces 3 années. Est-ce qu'il y a des sons qui ont changé ou qui vont changer ou que tu aimerais faire changer?
Il y a des sons que je veux surtout pas changer parce qu'en fait ils sont devenus tellement iconiques, genre le son du coffre pleureur. Ouais. J'aimerais bien le refaire, mais en fait si je change, les gens ils vont pas comprendre. Ou genre le son quand tu tapes un coffre. Avec l'appel, ça fait un schlung, et en fait, c'est, si tu veux, c'est un son, il n'y a pas de variation, il y a ce son-là quand tu tapes le coffre. Et ça, tu peux pas le changer, ce son, tu vois, c'est le son de Sea of Thieves quand tu tapes le coffre, quoi.
C'est dommage.
Voilà. Des sons que j'aimerais refaire, il y a des sons d'impact qui ont été refaits, il y a des choses qui sont modifiées, mais pas toujours pour des raisons artistiques, mais des fois parce qu'on optimise des systèmes pour les rendre plus. Moins gourmand en mémoire ou ce genre de choses, donc on change un peu la façon dont ils fonctionnent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme système global, c'est-à-dire par exemple, je vois, c'est le Nick 420 sur le chat, il disait l'angle du bateau, on est à ce point-là dans le détail, mais en fait, c'est pas une histoire de détail, c'est une histoire de système. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais un système qui va déclencher des craquements différents en fonction de l'angle du bateau, en fait, tu auras ton bateau, il fera toujours un son qui est adéquat partout. C'est-à-dire que si tu as des grosses vagues, il va craquer plus, etc. Et du coup, t'as plus à t'en occuper derrière, quoi.
D'accord. Ouais.
Donc, quand tu fais des trucs en tant que système, par exemple, si tu fais un système de wildlife, d'oiseaux, de créatures, etc. sur une île qui va changer automatiquement en fonction de s'il fait jour ou nuit, etc., tu le mets sur ton île et après, t'as plus à t'en occuper.
Ok.
Donc c'est pour ça de voir le sound design comme un système dans le jeu, ça te permet de pouvoir faire un jeu open world avec 3 personnes, parce que sinon si tu dois venir faire du ce qu'on appelle du markup, tu sais, mettre tes sons, poser tes sons manuellement, tu t'en sors plus, quoi. Si t'as un artiste qui décide de changer bouger des arbres, faut que tu bouges tes trucs, non, tu peux pas faire ça.
C'est compliqué.
Ouais.
Tu passes d'une masse de travail qui est minime à quelque chose de fou. Et je voudrais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par exemple par rapport au schlung du coffre. En fait, vous pouvez changer des détails, comme tu dis, par question de mémoire, par question technique, en fait. Mais les choses qui sont trop, on va dire, trop présentes dans le jeu, comme notamment du coup le bruit du coffre, vous pouvez pas le changer parce que les gens sont trop habitués et du coup, ça crée presque un déphasage. Mais il y en a que tu aimerais vraiment changer qui justement font partie de cette base qui est inchangeable du coup pour le coup ou pas.
Ouais, typiquement le coffre pleureur, si je pouvais le changer, je le changerais.
C'est pas du jeu.
Y a plein de sons comme ça dans des. Enfin, je sais pas, tout le monde a ces sons-là dans les jeux qui sont. Par exemple, si tu joues à Counter-Strike, t'as le son où tu sors la bombe. C'est en fait, tu sais que tu entends le gars qui sort la bombe dans Counter-Strike, c'est un son.
Son unique, quoi.
Ouais, en fait, quand ce son-là joue, c'est pareil dans Sea of Thieves, t'as le son quand quelqu'un grimpe à l'échelle du galion, tu sais, t'as un son de flotte. Et en fait, ça, c'est un son qui te trigger parce que c'est tout de suite danger absolu. Et t'as ces trucs-là dans tous les jeux, en fait. Donc, si tu changes des sons qui sont ultra importants pour souvent, c'est autour de tout ce qui est un peu plus compétitif, donc c'est-à-dire tout ce qui est combat, etc. Si tu changes ces sons-là, tu vas te faire insulter par. Et parfois, l'inverse, c'est-à-dire, t'as des gens qui disent, ah oui, on n'entend pas assez ça, machin, etc. Donc, on va sur les forums. Moi, je vais sur Reddit de temps en temps, je regarde ce qui se passe. Je vais même sur les forums JVC, je regarde ce qui se passe, etc.
Bah, je me rappelle d'ailleurs, j'avais parlé avec toi, c'était par rapport au Fort des Damnés, où la musique était hyper forte au lancement du Fort des Damnés. Je crois que ça a dû changer, ça, je sais pas, mais.
Ouais, en fait, c'est pas qu'elle était forte, c'est qu'elle jouait. Enfin, il y avait plusieurs versions de la même musique qui jouaient en même temps. Donc, en fait, c'est un peu comme si t'avais pris trois fichiers de la même musique dans trois players différents, et tu les mets tous en même temps. Et ils sont tous synchronisés, donc tu peux pas savoir vraiment qu'il y a trois trucs qui jouent. Ah, et en fait, c'était beaucoup plus fort, parce qu'en fait, bon, c'était un problème technique.
Ouais, toi.
Mais ouais, dès qu'on peut améliorer des choses en audio pour les joueurs, on le fait, quoi. Donc c'est assez raisonnable, évidemment.
Déjà, rien que entre l'alpha, enfin, j'ai pu revoir des anciennes vidéos de l'alpha, rien que les bruits des armes, des canons, je crois, ils ont eu pas mal de changements avec la version finale, hein, si je me trompe pas. Et d'ailleurs, c'est très bien. Même si les sons étaient comme de qualité, hein, mais c'est bien de voir comme il y a des évolutions à ce niveau-là, c'est quand même sympa.
Des grosses évolutions.
Ouais.
Du coup, j'essaie de réfléchir à ce qu'il y a des sons que je changerais.
Alors, deux secondes. Donc, juste avant de continuer, je tiens à préciser qu'il reste 10 minutes, 15 minutes de podcast. Donc,
ouais.
Le chat, si vous voulez poser des questions qui des questions cool, n'hésitez pas, allez-y.
C'est le moment, ouais.
C'est le moment, on les prendra.
Attends, je vais scroller un peu les questions.
J'en ai vu une justement de Lionfire qui dit concernant les personnages qui toussent lorsqu'il y a du feu près d'eux, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, pourquoi ? Même chose pour la respiration.
Ouais. En fait, il y a une différence, mais elle n'est pas énorme. C'est parce qu'en fait, on n'a jamais pris en compte la. On ne prend pas vraiment en compte la. En fait, les personnages peuvent être tellement variés. Que en son, on n'a pas trop pris en compte la corpulence, etc. Et c'est des personnages où c'est pas ultra important. En tout cas, pour nous en audio, c'est pas quelque chose sur lequel on a voulu mettre l'accent. Par contre, on a le compromis qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé avec des voix qui sont un peu entre deux, tu sais. Donc ça, parfois, ça peut être un peu une femme ou un homme, tu sais pas. Et mais il y a bien une différence, mais c'est vrai qu'elle est pas énorme, mais il y a une différence. Et pareil pour la respiration, mais pareil, la différence elle est pas énorme. Et c'est tout simplement d'une manière générale dans Sea of Thieves, tout ce qui est son de vocalisation est assez rare. Ça arrive quand tu manges, quand tu te noies ou quand tu brûles, donc c'est assez rare, mais t'as pas de son. Tu sais, quand tu sautes, par exemple, t'as un super saut et que tu te casses les jambes, bah ça fait pas. Tu vois, y a rien de tout ça.
Ouais.
C'est pas Duck Nukem, c'est pas Overwatch, y a rien de tout ça. Donc c'est la parce que dans l'idée, c'est toi. Donc en fait, ce serait toi qui les ferais, tu vois. Et c'est pareil pour la musique, c'est toi qui joues la musique dans Sea of Thieves. Donc ça, c'est.
Et d'ailleurs, ça fonctionne bien parce que tu regardes beaucoup de streamers et je me sens aussi un peu visé parce que je fais pareil. C'est quand tu vas jouer, tu vas mourir, instinctivement, tu vas peut-être reproduire le bruit de la mort, genre, tu sais, un peu une petite souffrance, et ça, c'est pas mal, par contre, tu vois, ça implique vraiment le joueur dans le jeu, c'est pas mal d'avoir pensé ça.
Notamment quand tu coules à cause du coffre pleureur, par exemple, hein, c'est qu'un exemple.
par contre, il y a une question qui est intéressante, mais c'est lié à Disney, alors je sais pas si t'as le droit d'en parler.
Vas-y. Je l'ai vu, c'est pour ça que j'arrive.
Ah oui. Non, si, c'est bon, ça c'est bon. En fait, oui, on a récupéré, on a eu les vrais, en fait, les sons du ride de ceux qu'on. Alors, je sais pas si beaucoup de gens ont fait l'attraction Pirates des Caraïbes, mais en fait, c'est une très très vieille attraction qui date des. Parce que Pirates des Caraïbes, les gens disent oui, Pirates des Caraïbes, c'est Jack Sparrow, etc. Non, en fait, c'est très très vieux. Mais même avant ça, il y avait des bouquins, etc. En fait, Pirates des Caraïbes, ça a vraiment façonné tout ce qui est l'univers de pirates aujourd'hui. Et je crois que ça date des années 60 ou 70, c'est très très vieux. Ouais. Et en fait, tous les sons que tu entends là dans la fable 1, c'est les vrais sons du ride, quoi, de Disney. Mais oui, on a été accompagné par les studios Disney. Ils nous ont, oui, on a, c'est vrai, son du ride. Ouais.
D'accord.
D'ailleurs, on connaît certaines personnes dans le chat qui ont vraiment adoré cette première fable parce que ça leur a rappelé des souvenirs de l'attraction en elle-même, vraiment, vraiment sympathique. Donc,
vu qu'on peut pas y aller, en plus.
Oui, voilà. Donc ça doit être bien fait, j'imagine.
Je me permets rapidement, après vérification, 67, l'ouverture de l'attraction. Voilà, c'est de l'acculturation, moi ça me fait plaisir. Voilà.
Le premier son, ajouté au jeu, dans le prototype ou dans le...
Et là, tu l'as mindfuck parce qu'il était même pas conquis dans le prototype. What?
Le fameux proto avec les tic-tac.
Non, je pense que dans le jeu normal, hors prototype.
C'était quoi?
Après, les gars, je vois beaucoup de questions.
C'était une musique, je crois. On avait mis une musique quand tu spawnais, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'avant-poste, c'était juste tu spawnais sur une île. C'était un truc comme ça, et je crois après les premiers trucs qui sont arrivés, c'est genre le bruit de pas, parce que c'est tellement, tu te déplaces tout le temps, donc si tout ce qui est bateau, le cabestan, ce qui est bateau, c'est arrivé assez tôt, parce que en fait le bateau il est au centre de tout dans le jeu. Donc,
Oui, donc c'était un peu les premiers éléments ajoutés de toute façon, j'imagine.
Ouais, bah, en fait il y a beaucoup, surtout tout la fondation là, tous les Il y a plein de trucs, c'est très très naturaliste comme sound design dans Sea of Thieves, c'est des trucs ultra concrets, tu sais, c'est vraiment du physique, tu sais, du matériel, c'est des coffres que tu prends, que tu poses, c'est des voiles que tu bouges, etc. C'est beaucoup de bois, de sable, ce genre de trucs. C'est des trucs ultra physiques. Et en fait, maintenant, on a beaucoup plus de fantômes et de créatures, on a les kraken, les mégalodons, etc. Voilà, les squelettes. Donc après, maintenant, c'est un peu plus créatif maintenant. mais j'aime bien aussi.
Tu dois aimer, ouais, j'imagine. Ça doit être sympathique de travailler dessus, au final, dans ce côté. Créer des sons pour des créatures qui n'existent peut-être même pas, enfin qui n'existent pas en vrai, quoi. Ça doit être très sympathique.
Ouais, puisque tu es obligé de te poser la question de comment. C'est quoi le son de ce truc-là dans le jeu, quoi.
D'ailleurs, question bête, mais pour le Kraken, le Mégalodon, est-ce que tu t'inspires peut-être de films ou de d'autres jeux, même à la limite? Est-ce que tu as des inspirations à ce niveau-là?
Ouais, bah en fait, quand j'ai commencé à travailler sur Sea of Thieves, j'ai un peu regardé tout ce qui se faisait en termes de films de pirates, etc. Mais le problème, c'est que ça te donne une idée un peu créativement comment tu vas aborder la chose en te disant « Ah oui, ils ont utilisé ces trucs-là, ça fonctionne, machin, ça c'est agressif. » Mais le problème, c'est que vu que c'est très linéaire, tu peux pas vraiment te faire... Par exemple, si tu prends genre Pirates des Caraïbes, tu vas avoir un gros plan de la proue du bateau qui traverse l'océan, et là tu vas avoir un gros son de flotte, machin. Ouais. Et après, en fait, une fois qu'ils sont sur le bateau, tu n'entends plus du tout l'océan, parce qu'en fait, un son d'océan, c'est ultra chiant. T'sais. Dans un jeu, c'est très chiant, parce que ça fait un son de, comme un son d'autoroute, c'est ce qu'on appelle le bruit blanc. Ça fait ce son-là en permanence autour de toi, tu sais, ça fait.
À force, c'est lourd, ça devient.
Et à force, c'est ultra lourd. Et du coup, on va être au milieu de l'eau, il y a du vent et de l'eau, de la flotte partout. Comment on rend ce truc-là agréable, quoi. Et en fait, on a ce concept de ce qu'on appelle ear snacks. En fait, c'est des je sais pas comment le traduire ça, c'est des bonbons pour les oreilles. En fait, tu vas avoir un truc qui pop à gauche à droite, tu vois, tu vas avoir un petit bruit de criquet, bim, tu vas avoir un petit bruit de craquement de bois, bim, tu vas avoir un bruit de vague qui flotte. Et en fait, à chaque fois, l'idée, c'est de ponctuer, de distribuer ces bonbons sonores, quoi.
C'est de l'ASMR. Si on peut.
C'est un peu de l'ASMR. Moi, il faut que je me fasse un tuto sur l'ASMR, parce qu'en fait, ça veut pas du tout dire ce que je pensais, ce que ça voulait dire il y a 10 ans, en fait. J'ai l'impression que la notion moderne d'ASMR, c'est des sons cosy et agréables, etc. Alors que dans ma tête, c'était plutôt des sons de bruit de bouche vraiment très très gros de l'oreille.
Les gens pensent que c'est ça aujourd'hui, malheureusement. Alors...
Ouais, non, ça a changé, ouais. C'est ça. C'est l'idée, ouais.
Du coup, je vais te poser une dernière question qui m'intéressait, vu qu'on arrive vraiment à la fin du podcast. J'arrivais pas à la caler. Il y a Nick420 qui demande pourquoi vous n'avez pas ajouté la musique He's a Pirate du film. Et justement, je voulais faire la relation avec cette musique et puis le côté copyright. Est-ce que le copyright avec Disney était vraiment un impact dans l'ajout des musiques ou pas? Je ne sais pas si tu peux répondre. Parce qu'on reconnaît.
Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. À cette question pour des raisons.
Plusieurs chances, plusieurs musiques dans le jeu.
Alors déjà, les musiques dans le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ultra long à faire. C'est-à-dire, tu as quatre instruments et en fait, chaque instrument a plusieurs voix. Ça veut dire que si tu démarres par le par la via la roue en premier ou en deuxième, bah t'auras pas la même voix qui va être jouée. Donc déjà, ça veut dire que t'as 8 trucs différents à enregistrer.
Oui.
Et t'as la version bourrée de tous ces instruments, puisqu'en fait le truc change en fonction de si t'es bourré. Donc déjà tu doubles, donc ça fait 16 pistes à enregistrer.
Bien sûr.
L'eau c'est un filtre, donc ça va, c'est automatique. Pareil quand t'es dans une cave et tout, ça dépend de la taille de la grotte, ce genre de truc. Mais ça fait 16 pistes enregistrées, donc ça veut dire que ça prend un mois presque, tu vois. Ça prend vraiment du temps, quoi. Il faut, tu sais, il faut que ce soit en rythme, que ce soit synchro avec les autres instruments, faut que ça fonctionne. Du coup, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on en rajoute. On en a rajouté parce qu'à la sortie, je crois qu'il y avait trois ou quatre chansons et tu pouvais pas les choisir en plus. Non. Bah maintenant, tu peux choisir ta chanson, etc. Et t'en as que tu débloques. Il y en a une qu'on a rajoutée que tu débloques et il y en a une que tu débloques aussi quand tu passes Pirate Legend.
D'ailleurs,
il y en aura peut-être d'autres, j'imagine, mais ça prend tellement de temps que vous attendez pas à ce qu'on les sorte disparaître.
C'est sûr. Bah d'ailleurs, je me rappelle que les gens attendaient énormément à l'époque le banjo. Et c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps et on comprend finalement pourquoi. Parce que avec toutes les musiques qui existent.
Alors, rajouter un nouvel instrument, c'est encore pire que tout. Puisqu'en fait, quand tu rajoutes un instrument, il faut aussi faire toutes les chansons qui existent déjà.
Ouais, c'est ça.
Donc, si tu rajoutes un nouvel instrument demain, ça va prendre énormément de temps. Quoi. Mais bon, maintenant, il y a 4 instruments et tu peux être à 4 dans un équipage. Donc, tu vois, c'est bien comme ça. Quoi.
Peut-être un sachant peu moins que.
Bah on a rajouté le l'orgue dans le...
Ah oui, c'est vrai.
Et puis du coup pour quand le l'iPod, l'MP3, c'est pour quand dans le jeu?
Moi je pense à une harpe d'avant, mais si tu veux, hein, MP3.
Écoute, pourquoi pas.
Il y a 2-3 questions parce que je veux pas laisser les gens en plan, je veux juste y répondre vite fait. Le son qui a bien fait galérer, justement on parlait du coffre pleureur, ça c'est un son qui m'a bien fait galérer parce qu'en fait c'est genre on vient de dire ah oui tiens le coffre il pleure, fait un son. Super. par où je commence?
En termes de précision, on est bien.
Le brouillard aussi c'était pas facile.
Ouais,
il y a Mike Chapman qui est venu, il dit ah ouais ce serait bien si quand on arrive dans le brouillard il y avait un son de brouillard, et c'est génial parce qu'en fait ils se rendent pas compte. Tu te rends pas compte? Ouais, tu te rends pas. Tu sais, tu l'as dans ta tête, mais quand tu le prononces avec tes mots, c'est là où ça sonne débile. Et en fait, au moment où il a dit ça, j'ai vu dans son regard que il venait de réaliser à quel point c'est débile. Et du coup, je l'ai enfoncé là-dessus. Je lui dis, mais c'est quoi un son de brouillard?
Parce que c'est compliqué quand même.
Et je l'oublierai jamais. Il a fait ce son avec sa bouche. Il m'a dit, tu sais, c'est genre. Je dis oui mais non, ça marche pas comme ça. Mais du coup pour le brouillard, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire plutôt que mettre un son, j'ai retiré tous les sons et on a fait un système qui coupe certains sons au-delà d'une certaine distance, et en fait tout ce qui est son de ces sons à toi de quand tu manges, quand tu te déplaces, etc. Tout ce qui est craquement du bateau sont amplifiés.
Ouais, donc, vous avez beaucoup joué sur l'ambiance là.
Voilà, donc en fait, quand t'arrives dans le brouillard, c'est assez subtil en fait, mais tu le ressens.
Ouais.
Et quand t'arrives au milieu du brouillard, en fait, tu te sens seul. Tu te sens vraiment seul. En plus, ta visibilité, elle est flinguée. Tu vois rien nulle part. Et en termes d'ambiance, t'as cette petite musique qui monte, qui monte tout doucement.
C'est très oppressant. Hein, c'est bien réussi d'ailleurs.
C'est très. Oui.
Les bruits de pas dans les tavernes, tous les bruits de pas du jeu, c'est moi, et c'est dans on a un studio, hein, d'enregistrement, et en fait, on a 1 mètre carré de chaque surface. On a 1 mètre carré d'herbe, on a 1 mètre carré de sable, 1 mètre carré de béton, et tout ce qui est bois, c'est des palettes, en fait. Et donc, on a enregistré là-dessus pendant une semaine, on a enregistré plein de bruits, quand t'es pieds nus,
Que c'est présenté dans une des vidéos de Rare, justement, l'enregistrement
des. Ouais, c'est un peu. Je crois que il y avait une interview, je crois que c'était jeu online. Et en fait, tu vois tous les types de chaussures qu'on a essayé, parce qu'en fait, il fallait trouver les bonnes chaussures qui vont bien. Et la jambe en bois, la jambe de bois, c'est un balai, tout simplement. Tu vois.
Ah, mais les gens, quand ils vont jouer, maintenant, ils ont une nouvelle vision du jeu.
Ah ouais, clairement.
Ils vont avoir tellement d'anecdotes à raconter à leurs potes. C'est incroyable. C'est juste ouf. Je sais pas si tu as une dernière question à laquelle tu veux répondre.
Le crâne dans la main. Le crâne dans la main, c'est simple, c'est des murmures avec un. Tu sais, quand t'as une barre de métal ultra chaud et que tu la plonges dans l'eau, tu sais, ça fait un. Mm-hmm. Ben en fait, c'est ce son-là, mais plein de sons comme ça qui sont mis ensemble et qui sont traités pour avoir ce côté, tu sais, de fuyant, quoi, d'esprit qui fuit.
J'en étais quand même arrivé au point où j'avais l'impression d'entendre le nom Sea of Thieves dans ces murmures de crâne. Hein. Je me suis dit, est-ce que c'est possible ? Bon, apparemment non. Je suis déçu. Mais,
le son dont je suis le plus fier, j'aime bien. Bah, il y a des sons que j'adore. Je sais pas si c'est plus fier, mais j'aime bien le son. Bah, justement, j'en parlais précédemment. Le son quand tu es dans la cabine du capitaine et qu'il pleut, bah, ce plop plop, moi, je trouve ça. Moi, j'adore.
Ils sont cosy, ouais.
Et j'aime bien les sons de tout ce qui est les capitaines cendrés, les Ashen Lord.
Ah,
je
sais
pas comment ça en français parce que je joue au jeu en anglais. J'aime bien tous les sons d'attaque, là, de lance-flammes, etc. Je trouve ça, c'est le genre de truc que j'aime. C'est bien, c'est vraiment dans ta face, c'est bourrin, etc.
Ah, l'ambiance dans cet event est vraiment d'ailleurs excellent. Ça, c'est l'un des pires.
Je vais prendre deux dernières questions et après on te le libère, c'est promis. Il y a Zach Arthur qui demande s'il y a un endroit pour acheter l'OST du jeu. Je pense que sur YouTube t'as tous les sons. Et s'il y en a pas, est-ce que c'est prévu de sortir une OST payante ?
Alors attends, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est déjà le cas.
Il y a un vinyle qui est sorti.
Il y a un vinyle. Ah, je crois qu'il vient de sortir ou tu peux le précommander.
Il est assez récent.
Voilà. Et il y a, je crois que c'est un truc assez conséquent parce qu'il y a 4 vinyles. Et il y a sûrement une illustration.
Ouais, bah on en avait fait un article. Attends, j'essaie de le trouver.
Pendant que tu cherches ça, la dernière question de Cryzox qui est en PLS, il en peut plus, il arrête pas de.
Ouais, j'ai vu.
pour le bruit qu'un galion ou un sloop squat sort de l'eau, comment vous avez fait pour enregistrer ces sons-là ?
Ça, c'est en fait, c'est assez simple parce que c'est des sons de assez ce qu'on appelle c'est littéral, c'est littéraux. Je sais plus parler français.
Littéral. Je crois.
En fait, c'est des sons de matière, tout simplement. Donc, ça a du bois, de l'eau, etc. On a enregistré plein de... Bah, tu sais, qu'on a mis la piscine dehors et qu'on a balancé des palettes, ce genre... On a enregistré plein d'impacts, d'eau, etc. Bah, en fait, c'est une explosion. Quand tu balances un truc dans l'eau, bah, ça fait une sorte d'explosion sur l'eau.
Ouais.
Et en fait, quand il sort de l'eau, bah, t'as ça, une explosion, et t'as des bruits de bois en plus. Et c'est ça, tout ça combiné qui fait que ça donne ce côté massif, quoi. Mmh. Okay. Massif de trucs qui sort, quoi.
D'accord. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. J'avais encore plein de questions à poser.
Bah, on peut rajouter 2-3 questions, si tu veux. Moi, ça me dérange pas.
Non, parce que du coup, ça touche à toute une autre partie du sound design qui est plus technique et tout, au lieu d'anecdotes de son.
D'accord, ok.
C'est un peu plus simple. Il y a
quelqu'un sur le Discord qui a posté la liste des petits détails que j'avais posté il y a très longtemps. Du coup, pour ceux que ça intéresse d'avoir des easter eggs audio, bah, ils peuvent se rendre là-dessus.
Voilà.
Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour ce podcast. C'était. C'est fini les questions, les gars. Je suis désolé. Là, ça suffit.
C'est vraiment dans le détail. Chargement. Ouais, c'est vraiment dans le détail. Je peux pas expliquer comment tous les sons sont faits parce que sinon on sera encore l'année prochaine.
On fera un podcast spécialement pour les détails. C'est un strain.
Mais un podcast sur 2-3 jours. Voilà, on mange pas, on dort pas. Sur 2-3 jours, on détaille tout.
C'est ça.
Moi, ce jour-là, je serai pas là, les gars. Je serai.
Ah, c'est tellement dommage.
Je sais pas encore où, mais je serai là.
Merci beaucoup de m'avoir invité pour le.
Ah ouais, non, bah, franchement, merci beaucoup.
Il y avait des questions intéressantes. Après, pour ceux qui ont des questions en plus, ils peuvent toujours m'envoyer un message sur Twitter ou quoi. Et dans la mesure du. Si vous ne me harcelez pas de questions, dans la mesure du possible,
j'irai. Se faire spammer. De...
C'est ça.
Demain matin, toute la liste.
De toute façon, je tiens à préciser que le podcast sera disponible sur toutes les plateformes de rediffusion de son, donc Deezer, Spotify, YouTube et Twitch. Donc vous pourrez avoir accès au début du podcast pour ceux qui sont arrivés plus tard. Les liens de la chaîne YouTube de Void, si tu veux,
c'est en cours.
Les liens de YouTube et ton travail, tout ça, ça sera diffusé aussi. Et non, bah, un énorme merci, Void. Hein, c'était vraiment hyper cool d'avoir accepté de nous avoir rejoint pour expliquer un peu ton monde, ton travail, quoi. Ton travail, puis ton.
Ouais, moi je trouve ça dommage que ce soit pas plus courant, mais c'est vrai que des développeurs francophones qui sont, tu vois, qui peuvent communiquer comme ça, c'est assez, j'allais dire c'est assez rare, mais j'en ai marre de faire ça. c'est pas courant, et je trouve d'être un peu assez ouvert et de pouvoir expliquer, échanger, je trouve ça vraiment ultra qualitatif, quoi. C'est vraiment bien.
Il y a tellement de personnes qui ont été étonnées de plusieurs réponses, donc c'est vraiment cool. C'est un podcast qui a eu son petit impact quand même, je pense. En tout cas, moi déjà tout d'abord. Donc c'est assez cool.
En tout cas, ce que j'ai pu voir dans le chat, c'est que les gens vraiment aiment ton travail, aiment le travail de ton équipe en fait. Hein, c'est.
Ouais.
Oui, je suis pas tout seul. Déjà, je suis tout seul, voilà, heureusement. Et merci. Ça fait chaud au cœur. En anglais, on dit c'est une rue à double sens. En français, on dit c'est double tranchant. Ouais. Des fois, c'est des joueurs frustrés, tu vois, qui le serveur tombe en panne, etc. Des incidents techniques où ils se sont fait voler un truc, où ils ont eu un bug, parce que ça arrive. Et parfois, c'est aussi un peu d'amour, etc. Donc c'est une relation d'amour et de haine simultanée avec des gens qui te détestent parfois et parfois qui aiment ton travail aussi, et moi je m'en fous pas, donc je les écoute toujours, j'écoute toujours les joueurs, et c'est ultra, enfin je suis ultra content d'avoir des commentaires positifs sur le travail, parce que forcément j'y ai passé 6 ans, donc j'ai le droit d'être content. Mais ouais, ça fait ultra chaud au cœur, quoi, de voir réaction positive sur quelque chose de, tu sais, d'assez pas anecdotique, mais les gens ils y pensent pas, sur le son, etc. À chaque fois, quand je dis que je fais le sound design sur ce jeu machin, les gens disent le sound design c'est trop bien. Je dis c'est cool, ça fait chaud au cœur, quoi.
Ah, c'est sûr,
c'est ouais, mérité, c'est plus que mérité. Attends, t'as vu l'ambiance sonore, le tout, c'est un boulot monstre. Quand justement on le remarque pas tellement, c'est bien fait, c'est pour ça que c'est normal. Et juste merci, parce que c'est fou comme boulot, quoi. C'est fou, c'est bien fait, c'est immersif, c'est une régalade.
Sans les sons, ouais, les jeux seront très, très différents.
Il y en a, il faudrait enlever les sons. Mais c'est pas le.
Ça, c'est un sujet, justement, c'est une des questions que j'avais identifiées, mais ça sera pour une autre fois. Mais en tout cas. En tout cas, ouais, franchement, t'es le bienvenu quand tu veux, Void. Il n'y a vraiment aucun souci pour venir reparticiper à un podcast ou quoi, c'est les portes ouvertes.
Bah, pas de souci.
Donc, vraiment, merci beaucoup de ta participation. C'était hyper cool.
Merci. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.
Et puis, des bisous. Donc, le chat, merci d'être resté. Et puis, on se voit bientôt pour un autre podcast inédit avec Johnit. Non, je déconne. pour un autre podcast qui sera aussi intéressant, je l'espère. Donc, voilà, on vous fait des bisous et puis on vous dit à la prochaine.
À bientôt.
Allez, ciao.
La bonne soirée.
Fragile, it's made out of